DW. Pulsation.
L'Afrique numérique pourrait connaître une révolution. Les grandes plateformes ont en effet un intérêt accru pour le marché sur le continent. En fin d'émission, nous parlerons des singes dans l'espace, il y a de cela 60 ans. Et tout de suite, nous nous penchons sur l'origine du mot « Afrique ». C'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous.
Le saviez-vous ?
Cela ne vous aura peut-être pas échappé, il y a 3 jours, le 25 mai, c'était la journée de l'Afrique, qui correspond à la commémoration de la fondation de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, le 25 mai 1963. L'occasion pour nous de nous demander d'où vient le nom en français de ce continent. Eh bien, l'étude de l'origine du mot Afrique donne lieu à de nombreuses hypothèses. Selon certains, le terme Africa est apparu par le biais du latin, car les Romains appelaient ainsi la partie nord du continent où l'Africus désignait le vent chargé de pluie en provenance de Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Une autre hypothèse estime que le mot Africa pourrait venir du nom Afridi, une ethnie qui vivait dans cette région de Carthage, ou du terme phénicien Afar, qui signifie poussière. D'autres chercheurs pensent que Ifren, appelé aussi Iforen, Iforas ou Afer, l'ancêtre d'une tribu berbère, est à l'origine du nom du continent. Toutes ces suppositions contribuent à confirmer une chose. Longtemps, le terme Afrique n'a servi qu'à désigner la partie de l'Afrique du Nord, entourant Carthage, à dominante arabo-berbère. Le Sud, à majorité noire, était appelé, lui, Éthiopie, un nom grec, Éthiops, qui désigne littéralement le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. L'Afrique, chantée ici par un collectif autour du rappeur sénégalais Didier Awadi, ça s'appelle Afrique Nouvelle.
On veut bouger, on veut travailler, on veut manger, on veut travailler. C'est l'Afrique qui bouge, ses enfants qui bossent, c'est l'Afrique Nouvelle.
Faut se réveiller.
C'est l'Afrique qui bouge, ses enfants qui bossent, c'est l'Afrique Nouvelle.
Hey, away, wanna, afin qu'un nouveau jour puisse se lever. Ça fallait non mon accord,
on le sait,
mais beaucoup de l'effort d'y aider. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Seul les durs avancent des lidens, des cotis.
On veut bouger, on veut travailler, on veut manger, on veut
travailler.
C'est l'Afrique qui bouge, ses enfants qui bossent, c'est l'Afrique nouvelle.
Faut se réveiller.
C'est l'Afrique qui bouge, ses enfants qui bossent, c'est l'Afrique.
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeune et Culture. Les pays africains sont à la pointe en matière de services mobiles, comme les transferts d'argent par téléphone portable par exemple. Et pourtant, la révolution numérique pourrait être beaucoup plus avancée sur le continent si seulement les infrastructures étaient plus développées. Mais apparemment, c'est en train de changer. Ce sont surtout les géants américains comme Facebook, Amazon et Google qui sont en marche pour s'ouvrir le marché. Selon une étude actuelle de la Banque mondiale, seule 1 personne sur 5 en Afrique subsaharienne utilise l'Internet. Un chiffre très éloigné de la moyenne globale qui atteint 50% d'utilisateurs dans le monde. Sachant que les disparités en Afrique sont énormes, comme le souligne Félix Blanc de l'organisation Internet sans frontières.
L'état des lieux, il est très hétérogène, c'est-à-dire que vous avez en Afrique, c'est environ 35% de la population qui utilise Internet, avec des pays où, si vous voulez, le taux avoisine les 80%, et d'autres où ça va être au contraire très faible. Par exemple, des pays comme le Liberia, bah, il va y avoir une connexion à 80%. Des pays comme le Kenya aussi ont une très forte connectivité. L'Afrique du Nord, historiquement, a aussi une bonne connectivité. Et par contre, d'autres pays qui sont des véritables déserts pour, sur le plan de la connectivité à Internet, je pense à des pays d'Afrique centrale, qui sont justement loin des côtes.
Être loin des côtes, c'est être loin des câbles et des points d'atterrage, c'est-à-dire des endroits où les câbles en fibre optique sont ancrés sur la terre ferme et d'où le réseau se déploie vers l'intérieur des terres. Les principaux acteurs pour l'infrastructure numérique en Afrique sont les multinationales de télécommunications, telles que MTN d'Afrique du Sud, ou l'opérateur français Orange et le géant indien Airtel. Les services de télécommunications publics dans les pays africains jouent un rôle désormais secondaire puisqu'ils ne gèrent que 20% à peine des connexions. Les investissements sont en effet trop importants. Du coup, les régimes qui aimeraient garder le contrôle sur les télécommunications pour asseoir leur pouvoir avant les élections ou dans des périodes de protestation font pression sur les opérateurs pour couper les connexions. Ces derniers sont en général plutôt coopératifs, comme l'explique la politologue Tina Freiburg.
Facebook, Google, Amazon et tous les autres ont aussi le problème d'être dépendants de ces opérateurs. Ils sont obligés de faire appel à leurs services. Et lorsque, par exemple, en Ouganda, MTN joue le jeu des autorités et opère une coupure, alors naturellement, Facebook est inaccessible. C'est pourquoi Facebook et d'autres grandes plateformes qui proposent des applications veulent devenir indépendants.
Mais pourquoi les opérateurs jouent-ils le jeu des gouvernements ? Selon Internet sans frontières, même une société européenne comme Orange accepte la censure pour ne pas perdre de marché et en explorer de nouveaux. En tant qu'acteur économique, l'opérateur craint en fait qu'on lui retire sa licence d'exploitation pour tel ou tel pays. Mais outre les utilisateurs, ce sont donc également les plateformes qui offrent des applications qui sont touchées par les coupures Internet. Et avec leur potentiel économique, elles cherchent activement des solutions pour être autonomes. Et à ce jeu, elles ne manquent pas de créativité.
La nouvelle technologie la plus spectaculaire qui va émerger partout en Afrique dans les 5 années à venir sera la nouvelle génération de satellites.
L'Américain Steve Tsang est conseiller et militant Internet. Ce à quoi il fait allusion est la parade qu'ont trouvé les grandes plateformes du net pour atteindre plus d'utilisateurs. Puisque les opérateurs de télécommunications font l'objet de pressions et peuvent couper les connexions, les prestataires d'applications veulent mettre en place leur propre réseau. Steve Tsang, qui publie chaque année depuis 2014 un rapport sur la situation des infrastructures Internet sur le continent africain, s'attend à une grande évolution dans le secteur.
You may have heard of Elon Musk, SpaceX.
On entend parler du projet de la firme aérospatiale d'Elon Musk, SpaceX. Il s'appelle Starlink et il s'agit d'une constellation de satellites à orbite terrestre basse. Amazon a aussi annoncé un projet baptisé Kuiper qui sera également une constellation de satellites. Si une de ces visions venait à fonctionner, ce serait une véritable révolution pour l'accessibilité numérique dans les zones rurales parce que les plateformes seraient à même de livrer leurs services absolument partout.
Ces constellations dont parle Steve Tsang sont appelées à devenir de véritables réseaux tentaculaires. 60 satellites ont été mis en orbite le 24 mai dernier, mais le plus gros reste à faire puisqu'il est prévu d'en envoyer en tout 12 000 dans l'espace à une altitude de seulement 450 km de la Terre. Outre Starlink, il y a d'autres projets à l'étude. Amazon, Facebook et Google sont sur les rangs, mais toutes les expériences ne sont pas concluantes. Ainsi, Facebook et Google, qui envisageaient d'utiliser des drones pour relayer des données numériques jusque dans les lieux les plus reculés, ont finalement abandonné cette idée. Et le projet Loon de la société de Google, Alphabet, en est encore à ses balbutiements. Il s'agit de développer des ballons gonflés à l'hélium alimentés à l'énergie solaire. Mais rien ne permet de dire à l'heure actuelle si le concept sera viable. Au-delà de l'aspect positif de la réduction de la fracture numérique que représenteraient ces nouvelles technologies, il y a des réserves concernant l'éthique. En effet, les observateurs y voient aussi une concentration des pouvoirs de communication pour des sociétés mercantiles basées sur la publicité et des contenus médiatiques. Cela pourrait avoir des conséquences à l'avenir. Notamment le projet chinois « Les nouvelles routes de la soie » est regardé avec suspicion. Il prévoit en effet de développer les infrastructures numériques dans les pays en développement afin, pense-t-on, que Pékin puisse véhiculer les technologies du géant chinois de la télécommunication Huawei vers l'Afrique. Quoi qu'il en soit, démocratiser l'Internet en Afrique est une chance, pour autant que le continent en profite pour mettre en place un modèle décentralisé qui n'est ni dominé et ni monopolisé par les quelques acteurs économiques. Merci à Clarisse Herrmann qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Coup de projecteur.
Il y a 60 ans, aujourd'hui, jour pour jour, on assistait à la première mission spatiale réussie de singes. Miss Baker, un singe écureuil, et Hebel, un macaque rhésus, c'est leur nom, se sont envolés un an après Ordo, qui lui n'avait pas survécu à son voyage. Ils ont été lancés par un missile intercontinental pour un vol suborbital de 15 minutes, dont 9 en apesanteur. Hebel est décédé, hélas, 4 jours après l'expérience, lors d'une opération destinée à lui retirer une électrode. Sa coéquipière, Miss Baker, elle, a vécu 27 ans avant de s'éteindre en 1984. Ensuite, plusieurs missions se sont déroulées avec des singes. Sam, lui aussi, un macaque rhésus, a permis de tester les systèmes de sauvetage. Puis Ham fut en 1962 le premier chimpanzé dans l'espace. Sa mission a permis de lancer la même année le premier homme en orbite, car on savait dès lors comment un organisme supportait l'apesanteur. Cependant, les singes ne sont pas les seuls animaux spationautes. En effet, les chiens ont été les premiers mammifères vivants à se rendre dans l'espace. Le plus connu est une chienne, Laika, embarquée dans un Sputnik 2 dans le cadre d'une mission spatiale soviétique dès 1957. Aujourd'hui, à l'heure des débats éthiques sur l'utilisation d'animaux comme cobayes pour la recherche scientifique, ce serait impensable d'effectuer de telles missions, mais à l'époque, elles étaient décisives. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Le podcast est disponible sur dw.com/français. Bonne continuation et à très bientôt. Salut !